Mesdames et messieurs, bonsoir.
Madame, monsieur, bonsoir. C'est ce vendredi que débute devant la cour d'assises le procès d'une femme accusée de sabotage.
Sylvie G s'est introduite de nuit dans la centrale afin d'en saboter les infrastructures.
Mais l'opinion publique, jusqu'alors divisée, s'était figée lorsque, quelques semaines plus tard, un membre du personnel de la centrale avait trouvé la mort mystérieusement intoxiqué aux métaux lourds.
Entre vengeance personnelle et pollution à grande échelle, quelle justice rendre face à des criminels dont l'objectif est de protéger la planète?
Bienvenue dans la saison 2 des Assises Imaginaires, le procès de l'eau contaminée. Un podcast proposé par LexisNexis et produit par l'Acmé Productions. Épisode 6, les plaidoiries, partie 2.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, Mesdames, Messieurs les jurés, Vous avez juré et vous avez promis en début d'audience d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges portées contre Madame Sylvie Gosselin. Et surtout, vous avez juré de vous rappeler que l'accusée est présumée innocente et que le doute doit lui profiter. Enfin, vous avez juré de vous décider avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. C'est vous ce soir, donc, c'est vous qui portez la responsabilité de décider si Madame Gosselin, si Sylvie est coupable et si elle mérite 10 ans de réclusion criminelle comme le réclame en hurlant Monsieur l'avocat général. Mesdames, Messieurs les jurés, les lois de notre démocratie vous donnent ce soir droit de vie et de mort sur ma cliente. Oui, parce que quand on décide de condamner une femme de 53 ans à 10 ans de réclusion criminelle, alors on décide de la condamner à une petite mort. La pire qui soit, une mort lente. Certains de mes clients disent que 10 ans, c'est pire que la mort. Et je veux bien les croire. Le ministère public affirme que Madame Gosselin s'est rendue coupable de sabotage et d'assassinat. Prenons d'abord le sabotage. Comme à son habitude, le ministère public condamne et argumente de manière lapidaire, sans nous expliquer pourquoi Madame Gosselin est coupable de sabotage. Pardon, Monsieur le Président, pardon, Mesdames, Messieurs les jurés, mais quand il s'agit de condamner une femme de 53 ans à une détention criminelle, peut-être faut-il avoir la décence de caractériser l'infraction. D'ailleurs, Monsieur le Président, en début d'audience, lorsque vous avez relaté les faits qui nous intéressent, vous avez rappelé que Madame Gosselin a reconnu lors de sa garde à vue les faits de dégradation de biens et qu'ainsi, elle plaide coupable pour des faits de sabotage. Cela n'a rien à voir, Monsieur le Président, et vous le savez. L'article concernant le sabotage, qui a été rappelé tout à l'heure par Monsieur l'avocat général, indique que le sabotage est le fait de procéder à la destruction d'un bien lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. À quels intérêts fondamentaux de la nation Madame Gosselin a-t-elle porté atteinte ? Rien du côté du ministère public. On ne nous explique pas aujourd'hui, et pendant toute cette audience, on ne nous a pas expliqué pourquoi Madame Gosselin a porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Rien n'apparaît dans l'enquête. Premièrement, on ne sait pas si la centrale a été fermée. Combien de temps est-ce qu'elle a été fermée ? On ne sait pas si la commune d'Argeval a été déstabilisée. Mesdames, Messieurs les jurés, savez-vous où se trouve la commune d'Argeval ? Non, moi non plus, parce que tout le monde se fout de la commune d'Argeval. La commune d'Argeval, c'est une toute petite commune située au milieu de la France, la diagonale du vide, dont personne n'a jamais entendu parler et qui compte moins de 10 000 habitants. Et on vient nous dire aujourd'hui qu'avoir coupé les tuyaux d'eau de la centrale de la commune d'Argeval porte intérêt aux intérêts fondamentaux, porte atteinte, pardon, aux intérêts fondamentaux de la nation. Enfin bon, soyons sérieux, deux minutes. Nous ne sommes pas sur du nucléaire, sur une centrale électrique d'EDF. Nous sommes sur la centrale de recyclage des eaux usées de la commune d'Argeval. La vérité, c'est que dans ce dossier, et en ce qui concerne les faits de sabotage, votre cour, monsieur le Président, n'aurait pas dû être saisie. Nous ne devrions pas être devant une cour d'assises, nous devrions tout simplement être devant une simple cour correctionnelle. Et peut-être que Madame Gosselin aurait été reconnue coupable à une infraction délictuelle, c'est-à-dire une infraction pas très grave. On ne peut pas, aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, on ne peut pas, dans un état de droit, condamner comme ça, au doigt mouillé, à la louche, selon l'humeur du jour. Il s'agit de la vie d'une femme jamais condamnée par la justice, d'une femme généreuse, vous l'avez entendu, toujours prête à aider les gens qui la sollicitent, et une citoyenne dévouée. Pour condamner une femme, il faut une rigueur et une cohérence juridique dont monsieur l'avocat général semble totalement dépourvu. Oui, monsieur Bergerac est mort et c'est terrible. Oui, madame Gosselin a mis l'eau de la rivière dans une bonbonne d'eau de la centrale et elle le regrette, elle vous l'a dit. La mort de monsieur Bergerac est aussi un traumatisme pour madame Gosselin. Mais comment ? Comment est-ce possible qu'à la barre, monsieur Wessler puisse nous dire, et je me permets de le citer, que la centrale est extrêmement encadrée par la loi et les autorités sanitaires et donc on ne peut pas laisser entendre qu'on empoisonne les gens. Puis, M. Wessler ajoute « J'ai tout de suite compris qu'il, en parlant évidemment de M. Bergerac, j'ai tout de suite compris qu'il avait été empoisonné avec l'eau de la rivière. » Je ne comprends pas, M. Wessler. Vous dites que l'eau de la rivière n'est pas empoisonnée, mais que votre époux a été empoisonné avec l'eau de la rivière. Vous ne pouvez pas dire tout et son contraire, monsieur Wessler. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les jurés, si vous jugez aujourd'hui que madame Gosselin est coupable des faits de meurtre ou d'assassinat sur la personne de monsieur Bergerac, alors il faut aussi la poursuivre pour tentative d'assassinat contre tous les salariés de la centrale. Alors il faut rouvrir toutes les plaintes classées sans suite déposées par son association. Alors il faudra aussi condamner la centrale pour tous les cancers précoces que développeront les enfants de la commune qui se baignent tous les jours dans l'eau de la rivière. Alors, et c'est le plus grave, alors vous reconnaissez la corruption des services de l'État, de la préfecture, de l'ARS, qui depuis plusieurs années indiquent que l'eau de la rivière n'est pas toxique. Ce que monsieur l'avocat général a requis est absolument indigne. Il vous a expliqué que madame Gosselin, professeure d'équitation, qui savait que monsieur Bergerac avait une santé fragile, oui, c'est vrai, elle le savait, devait savoir que boire l'eau de la rivière lui serait fatale, alors même que depuis des années, les plus hautes autorités et les laboratoires d'analyse toxicologique répètent à madame Gosselin que cette eau est tout à fait potable, qu'il n'y a aucun problème avec cette eau. On marche sur la tête. Condamner madame Gosselin ce soir, c'est dire à tous les Français que les agences sanitaires de l'État mentent. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les assesseurs, mesdames, messieurs les jurés, voilà. Voilà pourquoi ce soir, vous ne pouvez pas faire autrement qu'acquitter ma cliente des faits de sabotage, c'est évident, mais aussi des faits de meurtre et d'assassinat.
Thank you. 3 ans. 3 ans d'alerte, de démarche, de recours à la mairie, de saisine de l'agence régionale de santé, de plainte même, au service de police. Tout. Tout a été tenté par celle que j'ai l'honneur de défendre, Madame Sylvie Gosselin. Sylvie, pour obtenir une réponse à une question très simple. L'eau de la rivière d'Argeval a-t-elle été polluée par la centrale ? Pendant 3 ans, ma cliente avait une seule préoccupation. Savoir si tout avait été fait pour assurer la sécurité des êtres vivants qui étaient en contact avec l'eau de cette rivière. Pendant 3 ans, immanquablement, systématiquement, on lui a répondu sans nuance. Circuler, il n'y a rien à voir. Rien. Même pas l'ombre d'un doute. Pendant 3 ans, jusqu'au décès de M. Bergerac, tous, experts, autorités, ceux qui sont censés nous protéger, ont systématiquement répondu la même chose. Rien ne démontre que l'eau de cette rivière est un poison. Rien ne démontre que l'eau de cette rivière est dangereuse pour qui que ce soit. Voilà donc l'état de la science à la date du 9 avril. L'état de nos connaissances à tous. Aucun principe de précaution ne s'applique. Et lorsque la science dit « ça va », qu'est-ce que ça signifie en droit ? Je pose la question. Ça signifie, mesdames, messieurs, si le cœur vous en dit, prenez cette eau et buvez-en tous. Monsieur le Président, mesdames, messieurs de la Cour, mesdames, messieurs les jurés, la vérité dans ce dossier, c'est que personne ici, et certainement pas madame Sylvie Gosselin, ne pouvait savoir, à cette date du 9 avril, que l'eau présente dans la bonbonne était susceptible d'entraîner la mort de qui que ce soit. Et pourquoi? Parce que sinon, tous ceux qui ont été alertés par ma cliente, tous ceux qui se trouvaient derrière les portes auxquelles elle a frappé sans relâche, auraient fait le nécessaire. Monsieur Bergerac lui-même, en parfaite connaissance des questions et des doutes soulevés par l'accusé, a indiqué que cette eau était parfaitement potable. Qui, ici, sur la base des déclarations que nous avons entendues, pour dire que M. Bergerac n'avait jamais bu cette eau. Qui, ici, pour dire que Mme Gosselin savait ce que M. Bergerac ignorait. Nous avons entendu tout à l'heure M. Chaban, spécialiste en toxicologie, le seul spécialiste que nous avons entendu, le seul sachant. Il nous a indiqué que cette eau n'était pas un poison. Alors la question est simple. Qu'est-ce qui a tué M. Bergerac ? Et la réponse est très claire. Elle est sous nos yeux. Et c'est celle qui nous a été donnée par M. Chaban. C'est une accumulation. Une accumulation de circonstances. C'est l'accumulation d'événements imprévus, une forme sévère du coronavirus, un asthme de naissance et la présence de cadmium dans l'eau. Voilà ce qui a tué M. Bergerac. Rappelez-vous. Une présence de cadmium qui a été niée par tous les sachants jusqu'à cette date terrible du 20 avril. Avant le 20 avril, pas de cadmium. Une conjonction d'éléments non prévus. C'est la définition même de l'accident. Monsieur le Président, mesdames, messieurs de la Cour, mesdames, messieurs les jurés, ce procès... ça ne devrait pas être celui de Mme Gosselin. En réalité, et vous le savez au fond, c'est notre procès. Celui de l'accumulation de nos lâchetés. À nous tous, experts, enquêteurs, responsables, citoyens. Celui de l'État qui devrait nous protéger et qui échoue. Et dans ce box, là-bas, se trouve la seule personne qui a essayé d'obtenir des réponses pour justement, éviter un drame. Et aujourd'hui, on vous dit qu'elle avait l'intention de tuer M. Bergerac. Pardon, mais c'est une farce. Aujourd'hui, avec ma consœur, nous défendons une femme brisée. Alors oui, on a écouté tout à l'heure la souffrance des parties civiles. Et à vous, à cette cour, il appartient de faire du droit. Alors on va faire un peu de droit. Sans connaissance certaine du caractère létal de l'eau dans cette bonbonne, il n'y a pas d'intention. et sans intention, pas de meurtre, pas d'assassinat. Pour toutes ces raisons, vous acquitterez ma cliente des faits de meurtre et d'assassinat. Alors peut-être auriez-vous pu la condamner pour des faits de dégradation des biens si seulement elle avait été poursuivie pour cela. Et alors, elle aurait assumé sa responsabilité sur ce point comme elle l'a toujours fait. Mais ce n'est pas le cas. Pas de sabotage, pas de meurtre, pas d'assassinat. Et alors, si vous acquittez, comme je le crois, ma cliente, à la fin de ce procès, lorsque tout le monde se sera levé, lorsque vous serez parti, lorsque les portes de la cour d'assises se refermeront, vous rentrerez chez vous avec un poids sur le cœur. Parce que oui, le 20 avril, un homme est mort. Parce qu'on est tous, d'une façon ou d'une autre, responsables de ça, collectivement. Mais je crois qu'au fond, malgré cette tristesse, vous pourrez regarder devant. Parce que, pour la première fois dans cette histoire, personne n'aura fui ses responsabilités.
La cour vous remercie. Madame Gosselin, avez-vous quelque chose à ajouter ?
Non, je n'ai rien à ajouter.
Je déclare les débats clos. Nous allons nous retirer pour délibérer. La cour et le jury devront répondre aux questions suivantes. L'accusée est-elle coupable de sabotage ? L'accusée est-elle coupable de meurtre par empoisonnement ? L'accusée est-elle coupable d'assassinat ? Avant que la cour d'assises ne se retire, je vais vous donner lecture de l'instruction figurant à l'article 353 du Code de procédure pénale. Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ?
Les Assises Imaginaires, avec la participation des secrétaires de la Conférence du Barreau de Paris, Ambroise Viennet-Légué, Jean-Baptiste Riolacci, Roxane Best et Harold Bataille. Avec les voix de Clara Guipon, Olivier Bonneau et Rebecca Finet. Écrit et mis en scène par Nima Cartier, réalisé par Nicolas Mollet, enregistré par Laurine Bonnefoy et Yanis Decouteau et mixé par Ben Auriel.